Bon bah super. Nous avons été rejoints sur ces entrefaites par Dweller. C'est Dweller. Ah, il quitte pas devant son PC, il était toujours avec sa belle famille, il a branché le PC pour faire le mettre sur un PC. C'est pas grave, il est arrivé plus tard. Deuxième
Ah
partie,
si, il est
tour
là.
6. Ah mais il parle pas.
Il joue
Salut!
un peu.
Ah bah si, il dit
Salut.
Dweller. Ça va Dweller?
Il faut lui découdre la bouche, hein, sinon ça marchera pas.
Ça y est, ce Dweller, quand même? On entend pas, on entend pas Dweller. Je sais pas si
Après, tu
c'est
sais, les réunions de famille un peu profondes, toujours bizarre.
C'est comme finir dans les deux bouffées, un des membres de la famille. Donc on va partir pour continuer avec toi, s'agissant.
Encore?
Ta deuxième intervention concerne un très, 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 une très, 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 très bonne campagne.
Ouais, là, c'est du monument. Là.
À toi, Joey.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va parler d'un magazine pas très connu qui s'appelle Casus Belli. Une espèce de truc bizarre. Marchait bien
Fanzine,
il y
quoi.
a. Ouais, voilà. Le vrai, le seul, l'unique, celui qui a 15 ans, etc. En fait, c'est une série de scénarios qui était sortie pour la fin 99. À l'époque, on pensait encore que l'an 2000, on allait avoir un magnifique bug informatique. Et en fait, Casus est sorti pour l'occasion une grosse campagne sur fond de fin du monde, d'apocalypse, de passage à l'an 2000. En fait, les investigateurs sont contactés par un de leurs amis qu'ils ont rencontré il y a quelques temps, qui est devenu propriétaire d'une grosse société de recherche les limites entre le scientifique et le paranormal. Et en fait, en plein dans la soirée, ils se font aborder par un SDF qui leur remet une espèce de cube, matière bizarre. En baragouinant qu'il faut retrouver les six autres, des trucs bizarres, faut absolument sauver le monde, enfin, un truc, n'importe qui voit ça, il part en courant, quoi. Ce qui les fait rester, c'est bah, que le resto, l'étage du moins, qui est utilisé pour la réception, se fait carrément attaquer par un sociopathe de première, qu'on appelle le boucher.
Le lancement de la campagne est excellent.
Ah ouais, le lancement de la campagne est vraiment splendide. Et moi, je sais pas, je l'ai toujours représenté comme un Arnold Schwarzenegger, usé dans une main, feuille de boucher dans l'autre. Ça marche très bien. Surtout, dans la limite, je crois que cette description a été inspirée par, justement, l'un des gros points forts de campagne. C'est qu'il donne énormément de pistes pour des effets sonores, des ambiances musicales. Et effectivement, l'ABO du boucher, ben, c'est l'ABO de Predator 2. Donc sur Schwarzenegger là-dessus, ça marche vraiment très bien. Donc, ben, nos pauvres investigateurs se retrouvent avec ce cube, ils ne savent pas trop comment ça marche. Et en fait, ils vont devoir retrouver 6 poignards vont leur permettre de débloquer le cube et d'empêcher l'arrivée d'une bête innommable le jour du nouvel an de l'an 2000. Donc on part un petit peu sur une campagne à la masque, on va faire un petit peu le tour du monde dans des situations parfois un peu incongrues. On reste quand même sur du scénar à la Casus, c'est-à-dire que ben, on est dans un magazine, on n'a pas forcément beaucoup de pages, donc on donne énormément en peu de descriptions. Les épisodes font, allez, je crois, même pas une page, format
oui.
A4 hein,
oui.
À l'heure actuelle. Donc c'est vraiment du très très dense. Par contre, c'est écrit de façon superbe et moi je sais que j'ai beaucoup réutilisé cette.
Il est très connu l'auteur, enfin les auteurs, je sais plus.
J'ai perdu les noms des auteurs, c'est ma honte à moi.
C'est des gens très connus, je crois.
Attends, je vais essayer de leur mettre la main dessus. Donc c'est vrai qu'en plus ils ont une façon d'écrire.
T'embêtes pas, tu
ouais.
cherches.
Alors, ils ont une façon d'écrire qui est assez, assez sympa parce qu'on parle vraiment par flash, par mots-clés, par. Je sais pas, on prend une description, on va avoir en quatre mots une ambiance visuelle, une ambiance physique, des références ben, au cinéma, ou voilà. Donc c'est vrai qu'on a vraiment des choses assez sympas. Et puis la grosse originalité, c'est qu'on a des moments entre guillemets de pause, puisqu'en fait la quête des poignards, quand on prend un poignard et qu'on le fait toucher le cube, on part dans un nexus. Et là, on part, on ne sait pas où, on ne sait surtout pas quand. La première fois, c'est dans l'Égypte pharaonique, où on se retrouve dans le corps d'un cadavre sur la limite de se faire embaumer. Donc, je vous laisse imaginer les situations assez bizarres. Les gens vont devoir se faire expliquer que non, non, je ne suis pas mort. Ouais, non, on t'a enterré hier. Ouais, mais non, non, je suis pas mort. Voilà. Et
C'était,
surtout.
tiens, je suis en train de voir ça a été adapté pour Savage World sur
Ouais.
le
Alors,
Zen.
ça a été adapté sur Savage World pour le Zden. Moi, j'ai pas fait jouer la version de Casus. Je les ai lus. Je me suis juste pas rendu compte qu'il y avait une deuxième saison. Par contre, je l'ai fait jouer sur la version pour Trinité, ben justement, protéger des douze singes, là. Et c'est franchement excellent, quoi.
Christophe Debien, ouais, le
Christophe Julien,
Christophe
merci.
Debien et Patrick Bowen, ouais, tout à fait.
Merci. C'est
Chris
vrai
et
que
Pat.
pour le coup, ils ont fait un super boulot. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment adaptable à tout. On n'a pas de grands méchants clairement identifiés. Donc la bête, ça peut être le Sphinx noir de Nyarlathotep, ça peut être Nodens qui débarque. On peut faire vraiment ce que l'on veut avec ça.
C'est pas sérieux pour l'appel de Toulouse de base.
Au départ, non, c'est pas pour l'appel de Cthulhu, c'est pour du
Même
Savage World.
moderne, quoi.
Voilà. Mais vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Donc ça donne des choses assez sympas. Donc la construction est relativement linéaire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va alterner un épisode de recherche à notre époque, où on n'a pas trop de contraintes de temps, c'est-à-dire qu'on est relativement libre. Ce qu'il y a, c'est que de toute façon, si on tarde trop, le boucher mettra la main sur ce poignard. Donc forcément,
Attendez, bonjour.
Ah, tiens, salut!
Salut, Dollar.
Aïe, ça marche.
Attends ton Dollar.
Il est vivant.
Sergisson, vas-y.
Donc,
Sergisson est en train de parler du réseau divin.
C'est ce que j'ai écouté, ouais.
Voilà, donc on n'a pas trop de pression au niveau du temps quand on est de nos jours. Si ce n'est cette épée de Damoclès qui est le boucher, qui va revenir régulièrement. Je crois que quasiment tous les deux ou trois épisodes, on le rencontre, et puis à chaque fois, on manque de se faire assassiner, quoi. Mais ça sert juste de tremplin pour faire avancer, pour continuer. Et puis pour dire aux joueurs que ben voilà, c'est pas une promenade de santé et que à un moment, il faut avancer. Et puis après, on a ces passages dans l'histoire avec un grand H. On va partir quand même en pleine Égypte, on va partir faire de la piraterie avec Morgan, qui est un très très grand pirate réel, à essayer
Et tu peux nous donner un peu les liens entre là et la trame principale?
Alors, en fait, ces scénarios-là vont nous permettre de récupérer des poignards à travers le temps. C'est-à-dire que quand on arrive à récupérer le poignard à travers le temps, ben, quand on se réveille, il se matérialise dans nos mains. Donc ça permet, si jamais les investigateurs ont un petit peu de la merde sur les autres scénars, de rééquilibrer un petit peu et de se dire, bon, effectivement, on n'a pas tous les poignards, mais le boucher ne les a pas non plus. Donc ça, voilà, ça me remotive un petit peu, on peut avancer un petit peu comme ça. Sachant que, bien sûr,
C'est intéressant, ça veut dire que ce que tu dis, c'est on a quand même le droit de merder un scénario dans une autre époque.
Complètement, complètement. On a le droit de de foutre en l'air un scénario même dans notre époque, en se disant, bon, au bout d'un moment, on comprend un petit peu la logique de la campagne. On se dit, bon, effectivement, là, on a fait un peu de la merde. On a, entre guillemets, la session de rattrapage avec le scénar historique, quoi. D'accord. Et puis, inversement, on peut se dire, ben voilà, zut, j'ai fait de la merde sur le scénar historique. Il faut vraiment que le scénar réel, je le réussisse. Donc, ça donne aussi une motivation pour les joueurs. Et c'est somme toute assez sympa. Et puis, on a aussi ces scénarios historiques qui dépaysent complètement. Parce que, voilà, comme je disais, on passe de l'Égypte à la piraterie, à l'Inquisition espagnole, la sortie du Moyen-Âge. Enfin, on a vraiment des choses qui nous changent. Un petit peu, voilà, comme une partie de contrée du rêve dans un scénar, une campagne un peu lourde. Ben, ça permet, voilà, de prendre un petit coup d'air. De se dire, bon, ok, on risque pas grand chose, ça on se le dit la première fois, et après quand on voit qu'en fait on était dans le coma pendant 48 heures, que si on est un gardien un peu vache comme moi, bah tiens, les blessures qu'on a pris, on a un petit peu ce que j'avais appelé l'effet Matrix, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le rêve, ça arrive dans la réalité, c'est-à-dire que ouais, j'ai pris. J'ai fait une hémorragie interne dans ma rêve, puis le mec, il se réveille, le médecin sont autour de lui. Non, bougez pas, vous avez fait une hémorragie interne.
Ah oui, d'accord.
Ouais, ok.
Ah, quand même.
Ah ouais, j'avais été dégueulasse. Mais c'est vraiment des bonnes choses. Et puis, on a vraiment une montée en puissance, puisque on commence, même le boucher, est de plus en plus armé, il est de plus en plus accompagné. C'est-à-dire qu'il commence, il est quasiment tout seul, il a son couteau de boucher et un ouzi. On finit, il a une petite armée avec lui, il a utilisé un virus informatique pour paralyser tout le monde. Il arrive avec le lance-roquette et il a fait du boucher. Quoi.
Donc, il y a un moyen de l'arrêter avant le boucher ou pas?
Non. Non, le boucher est tablé de façon...
rencontre pas.
Alors, on le rencontre. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on se fait botter le cul. Parce que, il envoie quand même du pâté, le vieux. Hein. Par contre, il n'est pas prévu que les joueurs tuent le boucher au départ. Donc, effectivement, ils vont l'abîmer, ils vont le blesser, le mettre quasiment mort. Le mec, il va sauter par la fenêtre et puis il va disparaître. Voilà. Mais c'est pas prévu que le boucher soit buté avant le dernier scénar. Quelque part, ça donne aussi une belle némésis. Mm. Parce que voilà, c'est le genre de mec, bon, on s'est rencontré trois fois, deux fois on s'est fait prendre la tollée, la troisième on a réussi à le buter, mais bon, il revient. Est-ce qu'on va y arriver une quatrième fois, quoi? Donc c'est vrai que ça donne des choses assez sympas. Ça m'a
vraiment
beaucoup plu. Quoi.
Juste, t'as parlé de l'ambiance et tout ça. Est-ce qu'il y a des aides de jeu?
Ouais, alors les aides de jeu, il n'y en a pas en tant que tel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cartes à donner. Ça va être à vous de créer tout ça. Par contre, il y a énormément de didascali, je dirais, sur les BO. Par exemple, voilà, on va arriver dans une espèce de boîte sert de repère à plusieurs malfrats. En fait, quand on arrive, le premier truc qu'on voit, c'est musique techno. Entrée, voilà, on rentre par des wagonnets, machin, et on a d'emblée le type de musique qu'on va pouvoir utiliser pour donner notre ambiance. On va utiliser la BO d'Akira, je parlais de la BO Predator 2, donc c'est des choses qui sont assez facilement identifiables, à trouver, c'est super facile.
Ça rappelle un peu le scénar de Casus Belli qui s'appelle Le regard de l'abîme, qui était aussi truffé de, pour cette scène-là, mais était la piste numérotant de tel CD, c'est
ouais.
Un peu ça l'idée.
Ouais, il y avait ça, et après il y a aussi un petit truc, moi j'avais beaucoup aimé, alors... C'est pas de l'aide de jeu pour les investigateurs, c'est de l'aide de jeu pour les gardiens. c'est qu'en fait, chaque épisode commence par une citation. Alors, effectivement, citer Bruce Willis au départ d'une citation...
Il piquait, mais ça fait cœur.
Ouais, voilà. Mais quand on a des petites choses, enfin, j'en trouve, mais...
I'll be back.
Premier épisode, voilà, et tombent les anges de feu, on a l'apocalypse. Donc c'est vrai qu'instinctivement, on se dit, ouais, effectivement, il va falloir que je le joue de façon apocalyptique, jugement dernier... là, c'est carrément Dieu qui envoie ses troupes pour buter tout le monde, quoi. Quand après, je prends le deuxième, donc on va faire des recherches, le tombeau des héros et le cœur des vivants. Ouais, effectivement, là, voilà, on sait qu'on est sur quelque chose déjà de plus posé. Va falloir faire de la recherche, va falloir qu'on aille fouiller l'histoire avec un grand H pour essayer de s'en sortir. Donc c'est vrai qu'effectivement...
Est-ce qu'on croise le boucher, est-ce qu'on croise dans les épisodes historiques?
Non, on ne croise pas dans les épisodes historiques. C'est justement ce qui fait la pause des épisodes historiques. On a un compte à rebours, c'est-à-dire que le cube nous dit, voilà... donc c'est vrai que la première fois, ça passe, les joueurs n'ont pas du tout fait attention à ça. C'est-à-dire que le cube débarque, et puis on a... Le décompte qui commence, donc on a 48 heures, 59 minutes, 59 secondes, 58, 57, 56.
C'est bon, ça.
Et voilà, les joueurs n'ont pas du tout fait attention à ça. Et en fait, après, ils se sont dit, ah ouais, mais attends, c'est vrai que de toute façon, on ne pouvait pas sortir de ce voyage temporel au-delà de 40, avant les 48 heures. Donc, c'est-à-dire que même si on récupère le poignard, avant la fin des 48 heures, après, il faut le garder jusqu'à la fin des 48 heures. Si on s'est fait des super potes qui veulent nous arracher la gorge parce qu'on est hérétique, ouais, j'ai récupéré le poignard, c'est bien. Maintenant, j'ai l'inquisition sur le dos, il faut que je me sauve. Il faut que je trouve, faut que je reste 12 heures sans me faire choper. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a des... On ne voit pas le boucher, donc on n'a pas cette pression monde réel, mais on a d'autres pressions derrière.
Nick.
Voilà.
T'as fait le tour?
Juste un petit truc assez drôle aussi, toujours dans les voyages temporels. On a des prétirés donc pour ces moments-là. Il précise, hein, on n'est pas obligé de garder les sexes d'origine des PJ. Il y a que le joueur qui ne joue que des hommes parce que il aime pas jouer des femmes et voilà. On peut très bien là pour le coup. S'amuser avec lui et lui dire bah voilà mon Dieu tu joues une prostituée. Eh ben amuse-toi avec ça. Donc c'est vrai que ça donne. Moi je me suis amusé avec ça avec certains joueurs. Après c'est vrai qu'il y avait un truc. Moi j'ai fait jouer sur Trinité. Trinité je joue également beaucoup sur les vies antérieures. Et en fait j'avais un personnage qui en fait a retrouvé sa propre vie antérieure. Alors c'était pas lui qui jouait sa vie antérieure, il jouait un second, mais il s'est vu lui-même. Donc c'est vrai que ça donne des échos assez sympas. Et c'est des petites idées comme ça qui peuvent être très facilement à la table. Et à la limite, même, je conseille, si quelqu'un veut le faire jouer, faites par exemple un petit scénar avant, un ou deux petits scénars avant, justement, avec la rencontre de ce PNJ qui va commanditer les investigateurs. Et n'hésitez pas à utiliser les vies antérieures des joueurs. Genre, je sais pas, ils vont voir une voyante, puis ils commencent à avoir des flashbacks de ça, parce que ça donne vraiment une plus-value à ces voyages temporels.
Voilà. Okay. Tu es good ?
Je suis good. Si petite question qui risque de venir, la première partie, il y a 12 scénarios de mémoire. Avec la deuxième saison, on en a 20.
Ouais, c'est plus long cours. Hein.
C'est du long cours, mais honnêtement, ça le fait.
Puis c'est ruiné,
il y a quelqu'un qui a un crapaud familier.
Oui, il y a une souris crapaud.
Un crapaud buffle.
Le truc, c'est que c'est vraiment organisé, c'est ce qu'il disait sur la licence, c'est vraiment organisé saison et puis épisode. C'est vraiment le but du truc. Juste une petite question, parce que je m'en souviens plus. Les passages dans les parties historiques sont bien amenés, ça se passe comment?
Alors, en fait, c'est amener, entre guillemets, un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Hein. C'est-à-dire que...
Cause du cube.
Bah voilà, c'est le cube, en fait, qui fait tout.
Alors, je m'appelle plus, il y a un signe de joueur ou pas?
Pas du tout. En fait, c'est quasiment... moi, j'avais fait jouer comme un accident. C'est-à-dire que le mec, il a le poignard, il a le cube. Et en fait, c'est une force extérieure, quoi, qui... comme deux gros aimants, qui forcent à poser la poignard sur le cube. Et sinon, c'est vrai que les joueurs peuvent passer complètement à côté s'ils n'ont pas l'idée de poser le poignard sur le cube. Voilà.
Mmh. Justement, ce truc-là, avec le cube, ça fait pas trop gadget, genre, ils vont faire les cons avec et tout ça, non?
Moi, ils ont essayé, ils ont essayé de le détruire. Ça a disparu, c'est réapparu dans la poche d'un des investigateurs.
D'accord.
En fait, alors ça, c'est prévu par le scénario, c'est un objet indestructible qu'on peut perdre. Il y a moi, carrément un moment où le boucher peut rentrer en possession du cube. Donc c'est vrai que les figures sont prévues, mais en fait, les joueurs se rendront assez rapidement compte que ce cube est...
c'est quand même plus tout, quoi.
Ils ont plus envie en fait de s'en débarrasser.
D'accord. Messieurs,
une question. Aussi. Mmh ouais, moi j'ai une question. Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai un peu raté des mots, mais il me semble que la campagne était ancrée dans le passage du millénaire et ouais, du coup la jouer 15 ans après, il n'y a pas quelque chose de daté et un petit super peu tout. De périmé quoi.
Super tout. La première saison, il faut vraiment la jouer. Fin 99, c'est vraiment important.
Ce que dit Dweller, c'est est-ce que la jouer à notre époque, c'est-à-dire la jouer nous en tant que joueurs en 2014,
ah,
ça ne perd pas de son sel.
C'est ça. Puisque si je dis pas de bêtises, elle est sortie avant le passage du millénaire, donc c'était un peu le côté, comment il s'appelait ce film
End of Days.
Bref.
Non,
Strange Days aussi, qui était un peu sur cette espèce de fureur du passage du millénaire.
Ouais, ouais. Mmh. Alors oui, effectivement, c'est vrai que le jouer à l'heure actuelle est un petit peu plus compliqué. Moi, après, honnêtement, je l'ai fait, ça passait relativement bien. Faut dire aussi que mes joueurs, je l'ai fait jouer donc sur autre chose, et le jeu commençait. Commencé en 2001 et en fait alors par contre c'est vrai qu'on n'utilisait pas l'effet 99-2000, il y avait d'autres mécaniques derrière, mais les joueurs de toute façon étaient prévenus qu'on allait jouer avec 9 ou 10 ans de décalage, donc c'est passé relativement bien.
D'accord, tu veux dire que le côté passage du millénaire, on peut le zapper du scénario sans que ça perde de son sel?
On perd quand même toute une euphorie, toute une
il faut quand même un contraste. Il faut ce que tu veux dire, c'est qu'il faut quand même un contraste entre une période un peu festive et le côté bouché
voilà.
Noir, bon, c'est ça.
Puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a un chronomètre qui tourne, quoi. C'est-à-dire que faut quand même expliquer aux investigateurs que le passage de l'an 2000, il y a quand même le bug de l'an 2000, c'est un truc qu'on aime la fausse, quoi. Si tous les PC vont sauter, ça va se passer. Donc, c'est vrai que...
Dans ce style-là, est-ce qu'on pourrait se baser
par avant l'élection d'Obama.
Ouais, voilà. Est-ce qu'on pourrait se baser sur, par exemple, une grosse éruption solaire ou un gros truc un peu apocalyptique?
Alors, si on arrive à en faire, moi j'avais pensé le refaire par rapport à décembre 2013, où il y avait eu le calendrier Maya.
Shadowrun.
Voilà, Shadowrun aussi. Donc c'est vrai qu'effectivement, si on arrive à trouver un gros event comme ça, qui allie à la fois un petit peu le côté superstition et le côté emblématique, d'un passage temporel, ouais, pourquoi pas, ça peut être réadapté 10-15 ans plus tard.
Parce qu'il faut qu'ils en soient conscients dès le début ou il faut qu'ils découvrent?
En fait, il faut qu'ils soient conscients que le temps tourne. D'accord. Et que, en fait, le temps, ça va être le pire ennemi des joueurs. Le boucher, c'est une némésis. De toute façon, on doute assez rapidement qu'on le croise une fois, deux fois. On va être amené à le recroiser, on n'arrivera pas forcément à le battre de suite. Le but, c'est plutôt de sauver ce qui est sauvable. Mais le temps, par contre, lui, on peut rien faire. Quoi.
Justement, sur ce côté boucher, intuable avant la scène de fin, on est dans une période où on aime bien les trucs non linéaires. Ça devient pas rapidement quelque chose qui est un peu trop visible, le fait qu'on peut pas le buter avant la fin?
Alors en fait, première fois, mes joueurs n'ont pas réussi à le buter. Ils l'ont rencontré 4 fois. La première fois, ils n'ont pas réussi. Deuxième fois, ils ont réussi et le mec, en fait, est tombé d'une falaise. Ils l'ont retrouvé un peu plus tard. Ils se sont dit, c'est possible, on l'a buté. On n'y arrivera pas. Et en fait, la troisième fois, ils ont carrément fui. Bon, c'est pas possible, on va encore passer 3 plombs, on va essayer de lui flinguer. On va revenir. Donc on va essayer de sauver ce qui est sauvable et c'est courage, fuir. La dernière fois, par contre, ils sont tous mis et effectivement, bah, ça a été la fois finale.
Quoi. Quand il y a une certaine. Au-delà du côté imbutable, ça a donné une notion de finalement de. Bah de d'échec, enfin de petitesse des joueurs face finalement au mal, quoi.
Ouais, et puis c'est comme ça qu'il est. C'est-à-dire que quand on commence, moi j'avais donné mes citations au début de l'épisode aux joueurs, et quand je dis qu'effectivement le premier je l'ai fait version voilà, c'est le nom de Dieu qui s'abatte, le boucher, j'en ai fait un fanatique religieux. Lui, c'était l'instrument de Dieu, quoi, qui voulait raser l'humanité. Donc c'est vrai que ça rentrait.
Dieu, mais quel Dieu ?
Bah, le grand le seul, quoi. Celui que les joueurs connaissent.
Celui avec la barbe.
Voilà, le vieux.
Ah, un Odin.
Le vieux, quoi. Voilà, le vieux qui vit voilà. Les piliers, quoi, dans l'eau.
Et en fait, effectivement, au fur et à mesure, ils ont commencé à douter un petit peu de cette vision que je leur ai donnée. Surtout qu'en plus, ben voilà, le boucher a une gueule de zombie. On prend Freddy Krueger et on lui colle une feuille de boucher dans la main, quoi.
Donc, pour la jouabilité, tu le séparais une séance, un épisode.
Alors ouais, je faisais une séance, un épisode.
Et ça tenait bien.
C'est vrai que je les ai quand même pas mal bossé, je les ai pas mal avancé. J'ai rajouté pas mal de course-poursuite, d'énigmes, d'enquête, voilà. Et aussi, j'ai laissé les joueurs complètement libres. C'est-à-dire que s'ils avaient envie de faire quelque chose, bah, après tout, j'avais du temps, on le faisait, quoi.
D'accord. D'autres questions, messieurs ?
Qu'est-ce que tu trouverais comme défaut éventuel, parce que...
L'implication du gardien. Parce que bah, on est encore sur du scénar très court. Ouais, un scénar, un épisode, voilà, tiens, j'ai le premier épisode, hein. Le premier épisode, c'est une page, selon la repagination là, de Doc. Donc franchement, tenir 4 heures avec une page de texte, quand même broder et avoir quelques idées sous le pied. Ça n'a pas été
augmenté par Trinité, pour Trinité et tout ça.
Alors en fait ça a été augmenté pour Trinité, c'est-à-dire qu'on a plein d'aides de jeu qui sont arrivées. D'ailleurs, si ils sont normalement en ligne sur le site des 12 singes, et effectivement c'est complètement adaptable. Après ce qu'il y a pour Trinité, le contexte général a carrément été entièrement modifié. C'est-à-dire qu'ils ont intégré ça réellement à l'univers de Trinité en faisant quelque chose. Ils ont gardé la trame principale, ils ont changé tous les engrenages qui sont derrière.
D'accord.
On a une même trame, on a une même, même enquête, les mêmes lieux, les mêmes façons de résoudre les enquêtes, mais derrière, on a quand même pas mal d'autres choses.
Et est-ce que c'est tentaculisable ?
Ouais, largement. En fait, tu le prends, tu le poses sur Delta Green, et mis à part que tu joues en France, aucune objection.
Je voulais plutôt dire dans les fondements qui sont derrière, ouais, le boucher, ouais. Dieu, ce que tu veux, est-ce que ouais, tu ouais. peux réellement le rattacher au mythe?
En fait, c'est simple. La bête qui est à la fin, t'as aucune description. En fait, sauf si t'as un univers sur lequel tu le rajoutes, tu fais ce que tu veux après.
Le boucher, genre un avatar de Nyarlathotep.
Tout ce que tu veux. Et en plus, la première saison se finit. On arrive enfin à flinguer le boucher. Moi, on a peut-être enfin réussi à le flinguer, mais on n'est pas forcément sûr. Effectivement, la deuxième saison, de ce que j'en ai vu, commence à apporter des réponses sur qui était le boucher, pourquoi il venait, etc. Et la première saison, t'en faisais. Il n'y a pas de réponse donnée finie. On laisse les joueurs sur pas mal de choses. Le seul gros avantage qu'ils ont, c'est que voilà, ils ont réussi à sauver le monde pour l'an 2000. C'est déjà énorme.
C'est ce qui en a fait d'ailleurs un des gros succès de la campagne, c'est justement ce côté très couteau suisse, tu veux écrire ton méchant. Eh ben, ça sera ton méchant, quoi. C'est ce qui en a fait un de ses gros succès, c'est que c'est pas... Le scénario lui-même, il a des directions, mais finalement, ce que tu mets dans le fond, c'est vraiment toi qui choisis, quoi. C'est ça le gros intérêt, je pense. C'est-à-dire que ça peut être une campagne pour vampires, ça peut être une campagne pour... Enfin, un peu tout, quoi.
Qu'est-ce que tu veux avec ça, hein?
Autre question? Bon, pour moi.
Attention, il y a Dark Keeper qui rumine, fais gaffe.
Non, mais j'entends surtout, je sais pas ce qui se passe du côté de ton micro, Vonv, mais. C'est bon. La question que j'avais, c'était au bout d'un moment, est-ce que ça devient pas trop répétitif à chaque fois de te prendre. Il faut retrouver, allez, un autre poignard, et allez, on le met sur le cube, et allez, on va dans le passé, et on retrouve un autre poignard, et ainsi de suite.
Non, parce que t'as quand même une grosse pression qui est donnée sur les joueurs. Et en fait, cette pression fait que les joueurs vont avancer. Tu leur laisses pas le choix. Mmh. Et le temps tourne. Il faut sauver le monde avant l'an 2000.
D'accord.
Et on commence quand même début décembre. Hein, donc on n'a pas. On est 1er décembre. On est 1er décembre 22h. On a un mois ou moins une journée, quoi. Et ouais. La première journée, elle passe juste à essayer de comprendre finalement ce que c'est le cube, les expériences qu'on peut faire dessus, et puis quelles peuvent être les pistes pour trouver l'objet. Quoi.
D'accord.
Oui, question. Une chose que j'ai oublié d'ailleurs, les épisodes, on peut les faire dans n'importe quel ordre. Ça, c'est bien.
Ah, c'est pas mal, ça.
C'est-à-dire que, bon, mis à part l'introduction finale, après, on fait ça dans n'importe quel ordre.
C'est selon le film que t'as regardé hier soir, c'est un univers qui t'inspire plus qu'un autre, tu vois, hop.
Exactement.
Si tu reviens de Pirates des Caraïbes. Bon bah super, d'autres questions ou pas, messieurs?
Non, pas de
moi. Moi j'en ai une, par contre, tiens. Oui. Est-ce qu'il y en a qui l'avaient lu ou l'avaient joué?
Non.
Moi j'ai commencé à la lire.
J'ai survolé, ouais.
D'accord.
Mais la jouer c'est quand même assez long, hein.
La joie, c'est vrai. Et c'est tellement grand que...
Ok. Bon, bah, super. Donc, tour de table. Je vais commencer par moi. J'aime mieux ça avec personne-même. Moi, je vais mettre un bon 4, bien tassé, ouais. Minimum, ouais. Parce que, voilà, c'est très original, et moi, j'aime bien... Enfin, c'est très original. C'est original, mais surtout, moi, j'aime bien le côté... Alors, on peut pas s'en servir trop souvent non plus, mais j'aime bien le côté des comptes. Le côté...
Ouais, le côté 24... Le côté 24 heures chrono, quoi.
Voilà, exactement. Et puis, il y a un double décompte, quoi. Il y a le mois de décembre, pour arriver à l'an 2000, et puis, il y a, à chaque fois qu'on arrive dans une époque, il nous faut un certain temps. Et c'est exactement ce que tu disais, s'agissant, c'est-à-dire que... Il y a des fois où on aura... Merde, on dira, putain, on aura pas assez de temps pour s'en sortir. Il y a des fois où on dira, putain, on a été trop rapide. Là, on est dans la merde. Il faut qu'on reste et il faut qu'on fasse profil bas en attendant, quoi. Donc, pour ce côté-là, pour le côté écriture et originalité, moi, je mets un bon 4. Ouais. De ton côté, Dweller ?
Alors moi, je mettrais sur une échelle de 5, disons 3-4, si je le détache complètement de l'appel de Cthulhu, pour effectivement le côté un peu baroque, un peu barré. Après, si je m'inscris dans du Cthulhu, alors du coup, là, je retombe à 1 ou 2, parce que pour moi, c'est trop éloigné d'une ambiance Cthulhu telle que je la conçois, même en Delta Green, quoi. Il y a un petit côté un peu trop baroque, un peu trop éloigné, en fait, de l'heure, quoi.
Si je peux me permettre, c'est pas baroque, c'est vraiment cyberpunk.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. T'as donné une bonne définition. Quand je l'ai survolé, c'est bien l'esprit que j'en ai eu, avec les dessins de Barthélémy, le mec avec l'Uzi et tout. Pour moi, je suis pas du tout dans du Lovecraft tel que j'ai envie de le jouer. Mais par contre, si je le détache complètement, alors pourquoi pas.
Et tu dis ça, Dweller, pour le côté petites apartés dans l'histoire ou pour le côté le boucher actuel avec les gros flingues?
Ouais, plutôt pour le côté cube cosmique, boucher, Uzi, relance roquette. Pour moi, à la limite, si tu veux, je le verrais peut-être dans du mage, par exemple. Je connais plus ou peu ce jeu, mais je le verrais là, alors, éventuellement.
D'accord. Dark Keeper ?
Alors moi, autant le côté voyage temporel pourquoi pas, je vois un peu plus le mythe. Par contre, pour le côté boucher, j'ai peur que maintenant ça tombe un petit peu, même avec le côté pression de temps, j'ai peur qu'on tombe un petit peu comment il s'appelle, Nemesis, le méchant de Resident Evil, qui est intuable et qu'au bout d'un moment, les joueurs finissent par un peu se lasser. Mais après, comme tu l'as dit, si tu t'en tiens à 3-4 fois et qu'au bout de la quatrième fois il lui règle son compte, je pense que ça peut tout à fait se jouer. Sinon, je mets la même réserve que Dweller. Je vois quand même mal le côté Lovecraft. Même si tu mets ça sur des Delta Green, cette espèce de boucher là, je sais pas, c'est peut-être qu'on en a peut-être trop vu. Mais si vous voulez faire un parallèle, par exemple, dans le scénario du livre de base de Gumshoe, il y a un autre boucher qui est mis en scène, qui est le boucher de Cleveland, qui lui est un boucher historique et qui me parle beaucoup plus, si vous voulez dire.
D'accord, plus exploité, je trouve ça. Mais...
Ou alors, je pense qu'il manque à ce boucher. Ouais, si on l'a peut-être dit, ou c'est peut-être moi qui n'ai pas suivi, mais il manque à ce boucher, je pense, des vraies raisons d'agir. C'était apparemment la deuxième saison, mais je trouve ça dommage de n'aborder cela que dans la deuxième saison, alors que moi, durant les parcours temporels, j'aurais bien semé un petit peu partout des éléments de compréhension. Je pense que ça pourrait enrichir le truc. Donc je mettrais, indépendamment du mythe, pareil, je mettrais un bon 4. Et sinon, si vous voulez, en tant que campagne de Cthulhu, je mettrais plutôt 2,5, 3.
D'accord. Bis best part. Voilà.
Moi, je mettrais un bon 3,5 à jouer.
Voilà.
D'accord.
Côté voyage dans le temps, surprendre les joueurs, etc. Ça me plaît beaucoup en général. Ouais, moi, je vais m'y atteler, quoi.
Ça, c'est ta prochaine lecture.
Voilà.
Bon, ben, bien défendu. On ne fait pas la limité, pour un sans faux sur TOC. Et donc, merci Sergisson pour cette deuxième intervention. On va attaquer la dernière, parce que vous faisiez les marioles derrière Bisbestard et puis Dweller. Ça va être à vous de jouer. On va faire ce cool test Mar des Masques.
Dac.
On va faire gaffe Bisbestard, on t'entend pas terrible, c'est un peu comme là
tu vois. Il est bon, quoi.
Qui envoie.
Ça va là ou quoi?
Un peu mieux.
Un peu
ouais,
attends, je vais voir.
Mais c'est assez bas le niveau sonore, c'est pas on t'entend parler, mais c'est tu parles très très bas, le niveau sonore est assez bas.
Ah d'accord, c'est que je veux pas réveiller tout le monde chez moi non plus, quoi.
Pareil.
Oui, non, tout à fait. Moi aussi, voilà. C'est que je parle discrètement aussi.